Pour introduire notre message, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 7 à 10. 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 7. Nous lirons dans la version du Semeur. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta : « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel : « Va, couche-toi. » Et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui. Et il l'appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Cette lecture nous met en présence d'un jeune homme, jeune garçon, un ado, dirait-on aujourd'hui. Samuel, il devait avoir 12 ans, à peu près. Il ne connaissait pas l'Éternel. Mais après quelques échanges, il va comprendre qui s'adresse à lui. Et sa vie va être totalement bouleversée. Avez-vous remarqué au verset 10, l'Éternel vint se placer près de lui. Je vous propose de garder présent en mémoire pendant ce moment qui vient le fait que Dieu est près de nous afin de nous permettre d'entendre sa parole, son appel. Aussi, pour rendre plus concrète cette proximité de Dieu envers nous, je vais évoquer en trois phases, trois périodes, comment, à l'écoute de sa parole, Dieu nous a transformés, Noël et moi, pour nous amener à le suivre. Alors, soyons tous ensemble comme Samuel. Écoutons Dieu nous parler. Au commencement, Dieu s'est d'abord occupé de nous à notre insu. Au début des années 50, à la faveur d'un déplacement en Dordogne où je vivais avec ma famille, les parents de Noël rencontrent les miens. Ils sympathisent et peu de temps après, les enfants aussi sympathisent. Et quelques années plus tard, en juin 1956, Noël et moi, nous nous sommes dit oui, avec la bénédiction célébrée en la chapelle de l'église évangélique de Nogent-sur-Marne par M. Jules Marcel Nicole, l'actuel pasteur à l'époque. Et oui, nos parents étaient protestants, nous aussi, en tout cas, pas très pratiquant, pour moi surtout. Notre première année de mariage s'est déroulée à Alger, où Noël m'a suivi et où j'ai terminé mon engagement militaire. Mis à part quelques événements mouvementés que nous y avons vécus, rien à signaler. Je fus démobilisé le 1er octobre 1957 et les parents de Noël habitant au Perreux-sur-Marne, tout près d'ici, c'est donc dans ce secteur que l'on a cherché à se loger et moi à trouver du travail. À cette époque, ce n'était pas une grande difficulté, vous vous en doutez. Et le 23 octobre 1957, c'est-à-dire trois semaines après, je rentrais à la RATP, au métro. Pourquoi le métro ? Je n'ai pas choisi. J'y fus poussé. Je passe sur les détails, mais déjà là. Dans ce début de carrière, le hasard de Dieu sa proximité insoupçonnée fut en action. J'ai commencé par faire des petits trous, c'est-à-dire faire le contrôle des billets à l'entrée du métro. Aujourd'hui, il n'y a plus de poinçonneurs, mais en même temps, le contact fut rétabli avec l'église de nos gens. Mais il nous était très difficile de nous rendre au culte. Je travaillais à horaires très irréguliers et presque tous les dimanches. Et enfin, un premier enfant est arrivé. Nous étions logés chez une dame âgée dans un pavillon qui se situait à la limite de Nogent et de Fontenay. Là, il était assez facile au pasteur de nous visiter et il ne s'en est pas privé. Vous comprendrez par la suite l'importance de ces visites pastorales. Il faut dire qu'un peu avant notre mariage, Noël avait fréquenté l'église de Nogent et avait eu le bonheur d'assister début 56 à la première campagne de Billy Graham en France. Elle avait compris là que sa vie devait changer. Ce fut le début de sa vie nouvelle. Elle s'en était entretenue avec le pasteur Nicole, mais notre idylle avait un peu mis en veilleuse sa foi et l'élan qui commençait à vivre en elle. Ses visites pastorales lui ont alors ravivé le désir de se rapprocher de Jésus et de l'Église. Moi, j'ai suivi sereinement. Courant 1959, je fus invité au Veldir, à Paris, à une soirée d'évangélisation. Je ne connaissais pas, j'ai accepté. L'orateur était Eugène Boyer, un évangéliste réputé à l'époque. Ce fut nouveau pour moi, orgue électrique, trompette, guitare, chorale, petit chœur très entraînant. C'est là que j'ai entendu pour la première fois « Attaché à la croix pour moi ». Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Soirée agréable, avec un sermon percutant, dérangeant même, dans lequel il était beaucoup question de Jésus. En sortant, j'ai simplement déclaré « Tout ce qu'il a dit, je le sais. » Vous êtes toujours à l'écoute de Dieu. Deuxième période. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans les semaines qui suivirent cette soirée au Veldiv, je me suis rendu compte que tout ce que je savais de Jésus n'avait aucune valeur. Il me fallait non pas le savoir, mais le croire, l'accepter. Je fus aidé dans cette démarche par la dame qui nous logeait, une chrétienne très fervente. Elle nous donnait par sa foi discrète et son exemple de consécration un témoignage solide et efficace de l'action de Jésus dans sa vie. Un jour, elle me présenta un livre et elle me dit « Albert, je vous propose de lire ce livre. Vous y trouverez des choses intéressantes. À vous, je peux le recommander parce que je sais que vous êtes un homme bien, mais je ne le prêterai pas à n'importe qui. » Cette déclaration m'interpella et m'amena à m'examiner moi-même. Moi, un homme bien, mais pour qui elle me prend? Oh, bien sûr, je n'avais ni volé, ni tué, et la bonne éducation protestante reçue de mes parents, respect de Dieu, respect du prochain, honnêteté, politesse, droiture, tout cela était bien ancré en moi et peut-être me faisait paraître meilleur qu'en réalité. Comment se fait-il qu'on me considère comme un gars bien alors que j'ai plein de défauts, plein d'écarts de conduite? comme tout le monde. Et petit à petit, j'en vins à me demander si ces écarts, parfois importants, n'étaient pas plutôt ce péché dont nous parle la Bible. C'est ainsi que ce que j'avais considéré comme étant un compliment, immérité à mes yeux, plutôt qu'une accusation, m'a conduit à reconsidérer ma vie et la valeur que Dieu lui attribuait. J'ai lu ce livre, La vie du Sadhu Sundar Singh. Entre parenthèses, il se trouve que pour les personnes qui lisent les feuillets quotidiens de Vivre Aujourd'hui, les feuillets des 8 et 9 février dernier étaient extraits de ce livre, édité en 1938 et toujours d'actualité. En lisant ce livre, donc, j'ai découvert une vie consacrée et dépendante en totalité de Dieu. Nouveauté pour moi. Dieu me devenait beaucoup plus proche, plus accessible. J'ai aussi compris qu'il ne sert à rien de toujours accuser, toujours dénoncer ce qui ne va pas, mais plutôt de reconnaître ce qui est positif. J'ai reçu comme un boomerang ce verset de Matthieu 7, verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Parallèlement, les fréquentes visites du pasteur nous avaient entraînés dans une nouvelle approche de la Bible que nous lisions maintenant assez régulièrement en nous aidant des notes bibliques de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est ainsi que je relisais des récits lus dans mon enfance. Certains prenaient un sens tout à fait différent, d'autres parfois restaient difficilement compréhensibles comme ces entrailles de la miséricorde de Dieu dont nous parle Luc au chapitre 1er, verset 78. Heureusement, aujourd'hui, des traductions plus récentes nous éclairent. La Colombe nous dit « grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu ». Et dans la version du Semeur, « notre Dieu est plein de compassion et de bonté ». C'est plus clair pour nous tous. Avez-vous expérimenté que Dieu est plein de bonté pour vous? En tout cas, il l'a été et il l'est pour moi, pour nous. La lecture de la Bible devenait pour moi un réel enrichissement et elle l'est encore. Parfois, je ne comprenais pas du tout. Par exemple, que veut dire « le voile du temple se déchira en deux » ? Le temple, pour moi, c'est le lieu de culte de mon enfance, dans mon village. Mais il n'y a pas de voile dans ce temple. Quand l'explication me fut donnée, je compris toute la valeur de l'Ancien Testament pour une complète compréhension du Nouveau Testament et toute la valeur du sacrifice de Jésus. C'est aussi la lecture de la Bible et les rares prédications entendues qui m'ont fait prendre conscience que Jésus pouvait être mon sauveur personnel à condition que je reconnaisse être moi un pécheur. J'ai lu et entendu plusieurs fois ce verset « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». J'ai lu et entendu aussi « si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé ». J'ai capitulé. J'ai reconnu que Jésus était mort aussi pour moi. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Vous êtes toujours à l'écoute de Dieu. Un jour, lors de la visite du pasteur, Noël évoqua le baptême. Après plusieurs explications et très peu d'hésitation de ma part, peu de temps après, nous avons été baptisés tous les deux le même jour. C'est à cette période-là que je situe ma conversion, mon attachement à Jésus. C'est là que de protestant, je suis devenu croyant, c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ et heureux de l'être. Ce ne fut pas une décision spontanée. Je ne peux pas dire « je me suis donné à Jésus tel jour, à telle heure, à l'occasion de telle circonstance ». Non. Ce fut pour moi un processus qui s'est construit sur une longue période. Hélas, que de temps perdu. Alors, il y eut du changement dans notre vie, au travail comme dans nos relations. Nous avons facilement partagé notre foi et avons mis Jésus au premier rang de notre vie. Nous sommes rappelés le verset que le pasteur Nicole avait inscrit sur la première page de notre Bible de mariage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 3. Et alors, nous avons tout fait pour le vivre. Noël et moi avons été convaincus de ne plus vivre seuls dans notre coin. Il fallait que nous trouvions le moyen d'être présents à tous les cultes et aux études bibliques de semaine pour grandir dans la foi et dans la communion fraternelle. Enfants de Dieu, nous avions besoin d'une famille, de la famille de Dieu. Je vous ai dit que je travaillais au métro. J'avais déjà réussi plusieurs concours pour monter en grade et avoir un meilleur salaire. Nous avions alors deux enfants dont Noël s'occupait, mère au foyer. Mais je travaillais toujours en roulement et je n'avais qu'un dimanche de libre sur sept. Peu, trop peu pour la famille de l'Église. Vous êtes toujours à l'écoute? Troisième point, la foi en action. À la faveur de mes lectures bibliques et de l'action de l'Esprit du Seigneur, j'ai reçu et écouté l'indication qui a guidé mon choix. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 20 et 21. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. J'ai admis ce jour-là que la Bible avait réponse à tout. Aujourd'hui, bon nombre de nos concitoyens sont esclaves de la situation économique du pays, privés de travail, privés de vie familiale, privés de ressources, privés de bien-être matériel, que sais-je, et j'en passe, et il y en a beaucoup, esclaves d'un système ou de leur propre passion. Leur faut-il pour autant rester les bras ballants, être assistés, inactifs ? Il n'y a pas que Pôle emploi pour résoudre les situations difficiles. Fais de l'Éternel tes délices. La Bible nous donne une solution, la solution. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. C'est-à-dire, cherche par tous les moyens à sortir de cet état de dépendance. Et la première démarche, et de s'en remettre à Dieu, de le consulter par la prière, par la lecture de sa parole, et suivre ses directives. Fais de l'Éternel tes délices. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas mettre toutes les situations difficiles dans la catégorie esclavage, comme on pourrait le dire d'une personne handicapée physiquement qui ne peut pas tout simplement, en faisant les délices de l'Éternel, retrouver le plein exercice. Oh, il y a bien cette parole de l'Éternel, « Lève-toi, prends ton lit et marche !» Mais ce n'est pas donné à tous. Il vaut mieux être prudent dans l'interprétation de la parole de Dieu. Toutefois, je pense qu'il y a des esclavages que l'on appelle aujourd'hui addiction. C'est un mot qui fait bien dans le vocabulaire, mais parfois c'est tout simplement des excès. Excès d'alcool ou de toute autre passion. Pour ce qui me concerne, à l'époque, j'étais esclave de mon travail qui me privait de cette communion fraternelle. Je décidai donc de ne pas en rester là, de me libérer de ces horaires contraignants et de tout faire pour devenir libre. Alors, à l'affût des concours qui se présentaient à l'intérieur de la RATP, j'abandonnais la formation de conducteur du métro, activité gratifiante à laquelle j'aspirais, comme beaucoup, au profit d'un concours qui, en cas de réussite, me permettrait d'avoir un dimanche de libre sur deux. Belle perspective ! Je savais ce concours à ma portée et m'y présentais confiant. Il me fallait absolument réussir. Donc, peu de temps après, résultat de ce premier concours, attendu, verdict, reçu 12e. Mais il n'y avait que 10 places à pourvoir. Donc, grosse déception, ma foi encore débutante en a pris un grand coup. Il me faudra recommencer l'année suivante, donc attendre un an. Aujourd'hui, avec du recul, je dois à la vérité de dire que ma confiance en moi a sûrement été plus grande que ma confiance en Dieu. Je ne suis pas certain d'avoir passé beaucoup de temps dans la prière pour accompagner cette étape de ma croissance. En tout cas, j'ai maintenant retenu cette leçon. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Entre-temps, s'était présenté le concours intérieur d'employés de bureau, emploi à horaires réguliers, du lundi au vendredi. Donc, tous les dimanches libres, je me suis inquiété de la nature des épreuves, j'ai estimé mes connaissances insuffisantes, mais après réflexion, peut-être un peu de prière et quelques hésitations, car la réussite voulait dire aussi petite baisse du salaire, je me suis quand même inscrit. Et j'ai subi les épreuves pour voir un coup d'essai. Quelques semaines après, résultat de ce deuxième concours, sans enthousiasme, car j'étais incapable de savoir si j'avais satisfait aux épreuves. Mais, oh surprise, j'étais admis. À mon grand étonnement, et peut-être aussi manque de foi. Je ne me rappelle pas de la place, peu importe. Mais j'ai bien compris la leçon donnée par le Seigneur. Moi, j'avais mis mon espoir dans une libération partielle un dimanche sur deux. Le Seigneur me voulait tout entier, tous les dimanches, pas à mi-temps. Et à partir de ce jour, il m'a donné la joie de le servir avec plus de force, de conviction et de régularité, je peux dire qu'avec cette délivrance, j'ai compris combien il est important et bienfaisant de prendre la Bible à la lettre, d'être obéissant. J'ai fait là un grand pas. Si vous êtes de ceux qui suivent le Seigneur à mi-temps, quand tout va mal, ou quand il fait beau, il y a là matière à réflexion. Ne vous veut-il pas à temps complet ? Attention, il ne faut quand même pas brûler les étapes que lui-même aura fixées. Restons à son écoute. Et pour conclure, à compter de juillet 1960 jusqu'à la retraite en 1993, j'ai travaillé dans les bureaux et cerise sur le gâteau, ou plutôt exaucement total. Nous avons pu, à de rares exceptions près, être présents au culte tous les dimanches et aux réunions de semaine, ce que nous essayons de faire ici aussi. En témoignant de ce que le Seigneur a fait pour nous il y a 50 ans, ne croyez pas qu'il se soit arrêté de s'occuper de nous. À partir de là, il y a eu d'autres aventures tout aussi merveilleuses. Le Seigneur a usé de bonté et de patience envers nous. Tout au long de notre vie, il nous a transformés et a pourvu à tous nos besoins, au-delà de nos espérances et de nos envies, jusqu'à aujourd'hui. Oui, Dieu intervient et bénit au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est la Bible qui le dit, en Éphésiens 3. Mais après avoir rappelé toutes ces bénédictions et délivrances que nous avons reçues de Dieu, vous pourriez penser que nous sommes des privilégiés et que Dieu vous a oubliés. En quelque sorte, oui, nous sommes des privilégiés. Dans la mesure où Dieu nous a instruits, Dieu nous a guidés, Dieu nous a éclairés pour rester dans son plan et l'accomplir. Mais ce privilège n'a rien à voir avec des avantages qui nous seraient réservés à nous exclusivement. Je pense aussi qu'il y a dans cette assemblée beaucoup de privilégiés. Non, nous ne sommes pas des chouchous de Dieu. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il montre le chemin, mais il n'oblige pas. Ses privilèges sont pour tous ceux qui font le choix de l'écouter et de le suivre, mais pas pour ceux qui décident de lui tourner le dos. La Bible dit « J'en prends à témoin aujourd'hui ». Contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. La Bible dit encore à tous ceux qui croient en Jésus, qui l'acceptent, Dieu donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors, pour chacun de vous, quel est votre choix ? Ceci étant, ne croyez pas qu'avec la présence de Dieu dans notre vie, nous n'avons pas eu d'épreuves. Comme la plupart d'entre vous, nous avons traversé des périodes difficiles. L'adversaire ne nous a pas lâchés comme ça. Nous n'avons pas toujours été obéissants et en avons subi les conséquences. Mais nous n'avons pas été délaissés. Dieu a agi envers nous comme il a agi envers chacun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ceux qui l'aiment et le suivent, il a transformé et changé en bien les mauvaises expériences qu'il avait permises et nous n'avons pas fait marche arrière. Au fil des années, nous avons mis toute notre confiance en Dieu et il nous a accompagnés. Nous a portés, nous a délivrés, parfois de manière très spectaculaire. de certains lourds fardeaux que nous avons su déposer à ses pieds. Le Seigneur est toujours vivant. La Bible nous l'affirme. Il ne s'arrête pas de prendre soin de ses enfants. Et moi, je vous le confirme. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen.